Voici l'Europe, Anissa El-Jabri, Audrey Racine.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Notre invité aujourd'hui est Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, pour évoquer les grands chantiers qui vous attendent. Nasser Kamel, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir.
Bonjour, alors Nasser Kamel, vous avez été ambassadeur d'Égypte au Royaume-Uni, en France, après une carrière diplomatique qui vous a mené à Washington, à Lisbonne, mais aussi à Tunis. Vous avez pris également les rênes du secrétariat général de l'UPM en juin 2018. C'était quelques mois avant son anniversaire officiel, 10 ans, l'automne dernier à Barcelone. Alors un anniversaire, on peut le dire, fêté quand même sans grande euphorie. Le ministre des Affaires étrangères de Jordanie avait estimé « La situation est bien pire aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand l'UPM a été créée. Tragédie en Syrie, crise libyenne et je cite toujours hein, « l'absence dangereuse d'horizon politique pour le conflit israélo-palestinien ». Il a même ajouté « Dans la région, on perd espoir ». Alors Nasser Kamel, un contexte plus compliqué, une tâche bien plus difficile, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord que la situation en 2008 était bien plus prometteuse qu'elle l'est aujourd'hui. Mais si on regarde un peu de près, la situation il y a 3 ou 4 ans était pire que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation s'améliore doucement et tranquillement. Alors on est sur une trajectoire quand même qui est plus ou moins positive.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Le pire de pas mal des phénomènes qu'on a connus dans la région après 2011 est un petit peu derrière nous. Le pire du phénomène de migration, on voit que ce problème quand même est un peu récédé. La stabilité des pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, sur la plupart, elle va dans la bonne direction, sauf 2 ou 3 foyers de tension.
Alors justement, à propos de ces foyers de tension, on ne peut pas ne pas mentionner les manifestations qui sont en
cours. Vous pouvez les mentionner, mais moi je ne vais pas m'ingérer dans les affaires intérieures de pays membres.
À l'heure où on enregistre cette émission, Abdelaziz Bouteflika maintient sa candidature, les manifestations se poursuivent. L'Algérie a une position stratégique qui se situe au centre du Maghreb, avec des frontières avec la Libye, le Mali, le Niger. Est-ce que vous craignez une déstabilisation de la région ?
Je ne la vois pas, non. Et l'Algérie est un pays majeur, il n'y a rien à dire, et un pays qui est membre actif au sein de l'Union pour la Méditerranée, avec une économie qui va en avant, et avec un espace de liberté d'expression remarquable, et je m'arrête là.
L'Algérie n'a pas traversé les bouleversements du printemps arabe. Vous
elle
diriez qu'elle les traverse maintenant ?
Elle a traversé un moment beaucoup plus difficile. Non, elle a traversé ce moment pendant une dizaine d'années. L'Algérie a connu le pire des printemps, si vous les appelez printemps, arabes. Pendant 10 ans, l'Algérie a fait la guerre contre le radicalisme, l'extrémisme, le djihadisme, au pire exemple qu'un pays arabe peut faire face. Et je crois que la population algérienne s'est rendue compte de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi pendant ces 10 ans. Ils comprennent très bien les dangers de cette époque et ils ont la sagesse. Et je crois que l'Algérie, à mon avis, est un pays qui va aller en avant.
Alors Nasser Kamel, justement, vous mentionnez ces années noires de guerre civile. Est-ce que la seule alternative pour les manifestants qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est le pouvoir ou les islamistes ? Ou est-ce que ceux qui manifestent sont naïfs de penser qu'il y a une autre voie ?
Vous me ramenez un peu vers faire l'analyse de la situation intérieure. Moi, je vous parle d'un optimisme général, y inclut l'Algérie, sur le plan régional. Je crois que les deux foyers où la situation ne s'est pas améliorée dans notre région, c'est la Libye et c'est la Syrie. Les autres, on va voir ici et là, comme dans tout pays, des moments plus difficiles que des autres.
Est-ce que l'UPM, qui a beaucoup d'intérêt dans les droits des femmes, pourrait se réjouir que beaucoup d'Algériennes manifestent aujourd'hui dans les rues ?
Je me réjouis que l'Algérie et la Tunisie ont le plus grand pourcentage des femmes parlementaires, des membres du Parlement dans leur pays.
Mais pas que les Algériennes manifestent.
J'ai pas dit ça. J'ai dit, je me réjouis qu'en Algérie, le cadre juridique normatif est un cadre très propice au plein épanouissement de la femme. Ça explique que c'est un pays qui va en avant en ce qui concerne l'autonomisation de la femme et l'égalité entre les sexes.
Alors à chaque révolution, même un simple mouvement dans la rue, hein, il y a très souvent une chanson. Un collectif de chanteurs algériens en a publié une hein, sur les réseaux sociaux. Elle est intitulée « Libérer l'Algérie ». On l'entend d'ailleurs. Un des couplets dit ça, « Nous, nous mourons en mer et vous, vous vous faites soigner à l'étranger ». Alors ça pointe notamment du doigt hein, le fait que la jeune génération immigre parfois légalement, souvent illégalement vers l'Europe en espérant y trouver un avenir. C'est le cas pour l'Algérie, c'est le cas pour d'autres pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est quoi ? C'est un échec des gouvernements à offrir un avenir à ces jeunes-là ?
Non, mais il y a un défi. Il n'y a rien à dire. Dans toute la région, il y a un défi au niveau de développement économique et social et au niveau de donner à une jeunesse galopante dans le sens démographique du mot, une vie meilleure et des emplois. Et c'est exactement mon job, parmi d'autres, d'essayer de travailler sur ça, sur ce qu'on appelle les causes réelles des problématiques que la région fait face aujourd'hui. Création d'emplois, création de richesses, développement économique, ça c'est le défi. Ben, les chansons c'est bien, mais la réalité c'est est-ce que ces pays travaillent en avant pour donner un futur meilleur à leurs jeunes ? Hein ? La réponse dans la plupart est oui.
Ce que j'allais vous demander, c'est si c'était un obstacle pour le développement de ces pays, de perdre ainsi la partie de la population, une partie de cette classe qui est censée construire le pays, le développer. Est-ce que c'est un obstacle au développement ?
Bah, c'est lié à l'immigration. C'est lié au fait que le nombre des jeunes qui essayent de traverser est minime, presque négligeable par rapport à la population de nos pays au sud de la Méditerranée. Alors, ce risque n'est pas là. D'ailleurs, la démographie de la région, elle est en train de se stabiliser aujourd'hui. On n'est pas dans une logique hein, d'une croissance démographique énorme, tandis que l'Europe est dans une situation moins favorable dans le sens négatif, parce qu'il y a une démographie déclinante. Il y a un besoin de travailler ensemble. Dans la Méditerranée du Sud, il y a une force de travail qui est qualifiée et l'Europe doit travailler avec cette réalité pour créer une coprospérité entre la rive sud et le rive nord de la Méditerranée.
Alors justement, on va pouvoir en parler de cette coopération. Les navires de secours aux migrants en Méditerranée se retrouvent souvent interdits d'accoster. Le Sea-Watch interdit de débarquer les migrants à son bord à Malte. L'Italie qui ferme systématiquement ses ports et qui fait pression pour empêcher l'Aquarius de naviguer. On parle souvent finalement de ces arrivées difficiles, mais plus rarement de la façon dont les pays de départ vivent ce phénomène d'immigration. On va regarder à ce propos un reportage de notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise.
Le jour se lève sur le port de Zarzis. Pour les pêcheurs, c'est le début de la criée. Chemseddine est heureux de reprendre le travail après des mois de calvaire depuis son arrestation en Italie l'été dernier. Sauveur de candidats à l'exil depuis 14 ans, il s'est retrouvé accusé d'être un passeur par les autorités italiennes. C'est grâce à la mobilisation de tous les pêcheurs de Zarzis que lui et son équipage ont pu rentrer sains et saufs après un mois passé en prison.
Notre arrestation a montré qu'il y a des pays en Europe qui ne veulent pas que l'on sauve des vies. Donc nous, ça nous rend encore plus déterminés à le faire.
Sauver des vies, c'est avant tout un impératif imposé par le code de la mer, auquel les pêcheurs ne peuvent déroger. À Zarzis, la garde nationale maritime est aussi confrontée à des problèmes similaires. Les autorités doivent parfois empêcher l'immigration clandestine, mais aussi porter secours en cas de besoin. Dans cette nouvelle navette de patrouille, le capitaine Mahdi Jegirim guette le large.
Le rêve de l'Europe est encore présent chez les migrants. C'est pour cela que notre travail est de plus en plus difficile. Les migrants ne coopèrent pas avec nous et souvent, ils ne veulent pas revenir au port et ils n'acceptent pas notre aide. Ils disent qu'ils vont finir le voyage ou mourir sur place, dans la mer.
En 2018, la garde nationale de Zarzis a empêché près de 55 tentatives de départ vers l'Europe. Au total, 426 personnes, dont une soixantaine qui venaient de Libye.
Dans la loi, nous sommes obligés de sauver les gens en mer, tous les types de navires, ceux des pêcheurs, ceux des migrants, toute personne en danger.
Prise entre les pressions européennes et le sauvetage en mer, la Tunisie fait face à de nombreux dilemmes. Le pays refuse catégoriquement de devenir une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais il est malgré lui une zone de transit. et la mer échappe de plus en plus aux pêcheurs.
Alors Nasser Kamel, la Tunisie, comme d'autres pays du sud et de l'est de la Méditerranée, sont sous pression de l'Europe, ça fait longtemps déjà, pour tarir le flux des migrants. Vous diriez que globalement, il y a encore vraiment un manque de coopération globale sur ce sujet ?
Il y a des initiatives, il n'y a rien à dire. Il y a le processus de Rabat, le processus de Khartoum, je ne rentre pas dans les détails. Mais on est toujours sur logique de management de la problématique et pas travaillant sur les causes réelles du problème. Là, je trouve qu'il y a des manques. Même si l'Europe a pris conscience, dernièrement, on voit un plan d'investissement qui s'appelle African Investment Plan, qui veut travailler sur la question de développement économique, surtout dans le Sahel et dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on voit des programmes qui vont dans ce sens-là. Mais la réalité, c'est que le management, et c'est là qu'il crée où les tensions et les frictions existent, parce que les demandes et les sont pas les mêmes, et pour une raison aussi de perception, parce que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient se voient comme victimes de ce phénomène. 80% des migrants ne sont pas originaires de leur pays, et ils finissent par s'installer chez eux. Le Maroc aujourd'hui est un pays où des immigrants s'installent. L'Égypte, 5 millions. 30% de la population libanaise, c'est des immigrants. Entre 25 ou 30 en Jordanie. Plus que 10 millions d'immigrants vivent dans le pourtour sud de la Méditerranée. Alors quand l'Europe demande au sud de la Méditerranée d'en faire plus, la réponse est un peu une réponse frustrée, en disant on est aussi victime que vous. Travaillons ensemble pour que ce phénomène, les causes de ce phénomène, soient gérées. Développement économique, changement climatique, tout ce que vous voulez. Alors, restons pas sur la logique de mesures sécuritaires. Il y a des dimensions très diverses, économiques, sociales, climatiques, qui peuvent changer la donne. Et ne restons pas sur cette logique sécuritaire de frontières.
Cette question de l'immigration, à force d'être centrale dans la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, est-ce qu'elle n'a pas étouffé tous les autres sujets de coopération qui auraient
100%, elle, pendant un moment, elle était la problématique numéro un.
Elle l'est encore.
Elle l'est un peu moins. Je suis très honnête là. Et c'est frustrant pour quelqu'un qui est dans mon domaine de voir que, à certains moments. Aujourd'hui, quand je viens de vous dire, on voit maintenant la Commission européenne qui est très penchée sur la dimension co-développement en Afrique, en Asie et aussi à l'UPM au sein de l'organisation dont je suis secrétaire général. Merkel est un exemple à suivre dans ce sens-là, la chancelière allemande. Alors je vois de plus en plus que le leadership politique de l'Europe, il prend conscience que ce n'est pas seulement un problème de management, c'est un problème, comme j'ai dit, qui est beaucoup plus large et vaste et complexe. Et je vois même que mon organisation, il y a un regain d'intérêt sur la coopération méditerranéenne, parce que cette logique est en train de prendre l'ascendant.
Alors vous parlez du leadership politique européen, on a des élections qui approchent, c'est la fin mai, des populistes qui veulent faire de l'immigration le sujet numéro un de la campagne, c'est d'ailleurs déjà un sujet majeur en politique intérieure, par exemple dans la Hongrie de Viktor Orban. On annonce un nombre record d'eurodéputés d'extrême droite, est-ce que finalement cet élan ne pourrait pas retomber, vous ne craignez pas, à l'issue de ces élections, davantage de fermeture de l'Union européenne?
J'étais à Strasbourg il y a 2 semaines, les gens ne sont pas aussi inquiets que vous.
Ce sont les enquêtes d'opinion qui signalent
je sais,
ce nombre record. Mais
j'en ai vu plein. J'en ai vu ce monsieur, d'ailleurs, président Tajani du Parlement européen. Les parlementaires ne sont pas aussi inquiets. Oui, il y a des voix, comme vous avez mentionné, qui veulent faire de l'immigration parce que c'est un sujet facile. Et tous les sujets faciles, c'est des sujets à gagner des élections. Mais à mon avis, la raison va emporter le jour en Europe comme elle l'emporte partout. Parce que les Européens, avec leur niveau d'éducation, leur niveau de compréhension des enjeux, avec le rôle des médias comme vous, je crois que les Européens vont faire le bon choix dans ces élections. On va voir une Europe qui comprend que c'est à travers une coopération renforcée avec nos voisins, en créant des richesses ensemble, que l'Europe, avec une démographie problématique, pour ne pas dire plus, a besoin d'avoir plus de liens, plus de coopération avec son voisinage sud et son voisinage est. Et que d'autres puissances mondiales comme la Chine, l'Inde et autres sont en plein expansion dans ces régions. Alors l'Europe doit remplir sa place et pour exister dans les 50, 100 prochaines années. Et c'est à travers la coopération et pas le policing en anglais.
Alors justement, puisqu'on parle de coopération, en juin prochain aura lieu le sommet des deux rives à Marseille,
oui.
Par le président français qui a dit vouloir à cette occasion parler des sujets de mobilité de la jeunesse, des échanges universitaires. Est-ce que c'est là l'occasion de relancer le projet d'Erasmus euro-méditerranéen ?
Ben écoutez, exactement, je vous remercie pour cette question. C'est un autre exemple de regain par le leadership politique de l'Europe de l'intérêt sur la dimension coopération en Méditerranée. Le président de la République française qui lance une initiative qui va regrouper 10 pays du pourtour sud et nord, la Méditerranée occidentale, comme on l'appelle, pour travailler sur des thématiques et aussi au-delà de ces 10 pays, dans toute la région. Alors, dans ce sens-là, c'est une démonstration de plus que l'Europe va dans le bon sens, le sens de la coopération. Vous parlez des mobilités des étudiants, le programme Erasmus euro-européen a changé le visage de l'Europe dans les 20 dernières années. J'étais à Londres quand ils ont voté pour quitter l'Union européenne. Les jeunes anglais, la première préoccupation qu'ils avaient, c'est qu'ils vont perdre l'accès à ce programme parce que ça faisait partie de ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, imaginez si ce programme est élargi, renforcé, financé davantage, il peut changer même la façon dont nous percevons la et l'autre.
Vous parlez de ce renforcement de ce programme, mais en même temps, c'est très contesté dans certaines universités françaises. La France vient de décider d'augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers. Certains professeurs parlent carrément de mesures discriminatoires. Est-ce que vous regrettez cette décision de la France ?
Je ne vais pas la commenter. En Europe, partout, en Grande-Bretagne, les études sont même payantes pour les étudiants anglais. Je ne vais pas commenter ça non plus. Dans le pourtour sud, vous avez un énorme nombre d'université privée. Moi, ce que je demande, c'est que l'Europe ouvre sa porte à travers un programme comme Erasmus pour un jeune, une jeune Algérienne ou un jeune Marocain ou une jeune Libanaise de passer 6 mois ou 1 an, et le contraire. Parce que si on ne fait pas le contraire, on n'a rien. Alors, un jeune Européen aussi, d'aller, et aussi l'échange des professeurs et l'échange des programmes, et aussi les diplômes, les reconnaissances mutuelles des diplômes universitaires entre le Sud et le Nord de la Méditerranée.
À la conférence de Paris, le 12 septembre dernier, les États membres de l'UPM ont adopté une résolution, c'était pour faire avancer les droits des femmes. Est-ce que c'est une priorité de votre mandat, et ça se matérialiserait comment, concrètement ?
C'est au centre de mon mandat, je crois, l'autonomisation de la femme, pas seulement un défi, mais c'est aussi un des points les plus éclairants, si on peut dire en français, c'est-à-dire au sein de l'UPM, quand je regarde les chantiers sur lesquels on avance le plus, c'est le premier chantier. On est arrivé à avoir une vision commune de tous les 43 par rapport à ce qu'il faut faire dans le domaine de l'autonomisation de la femme, des égalités de sexe, de la place de la femme dans le travail. Et pas seulement ça, on va avoir un système de peer review, je ne sais pas comment ça se dit en français, où on a des indicateurs clairs qu'on a définis par rapport au progrès des pays par rapport aux autres, et on va présenter chacun, je veux dire, des pays membres, des rapports aux 42, par rapport où en est-il.
Des indices pour comparer un pays par rapport à l'autre.
Alors on va faire un système où on va avoir le droit de regard l'un sur l'autre par rapport à comment on avance par rapport à ces droits. Et ça me réjouit de voir qu'il y a un consensus à travers les 43 pays. Il n'y a pas eu un pays qui a émis une réservation par rapport à cette vision très progressiste que l'UPM est maintenant l'enceinte qui s'est emparé de ce projet et qui le pousse en avant. Alors j'en suis fier, et c'est pas mon travail, c'est un travail qui a commencé il y a 2 ans et qui a donné ses résultats il y a quelques mois, et ça va avancer dans les mois et les années à venir.
Merci beaucoup Nasser Kamel d'avoir été notre invité.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'actualité continue sur RFI et France 24.